Europe Matin.
Le 7-9, Sébastien Krebs.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 ce mercredi 17 février. Écoutez le monde changer. Il est 8h.
C'est une tentative de coup de force pour s'exonérer de l'examen du Conseil d'État, de l'examen parlementaire. C'est vraiment choquant parce qu'on parle quand même de l'élection présidentielle.
Surprise politique pour Bruno Retailleau et nouveauté démocratique, le vote par anticipation. Le gouvernement veut l'instaurer pour la prochaine présidentielle. Indispensable aux smartphones comme aux voitures, les semi-conducteurs. Une pénurie guette, c'est le dossier d'Europe 1. Et puis, un champion du monde de foot qui prouve qu'il a de quoi emmener le PSG sur le toit de l'Europe. Kylian Mbappé, triple buteur et star de la soirée à Barcelone. Bonjour Sonia Mabrouk.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Certains de nos auditeurs vont peut-être découvrir notre invité ce matin, Fatia Agag Boujalad, professeure d'histoire-géographie engagée sur la laïcité, la lutte contre l'islamisme, une femme de conviction pour l'entretien de 8h15.
A tout à l'heure Sonia, 8h01 sur Europe 1. Bienvenue.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les États-Unis avaient montré la voie. 101 millions de votes par anticipation pour élire le président du pays le plus endeuillé au monde par la pandémie. Quasiment 2 votants sur 3 avaient choisi de se rendre plus tôt au bureau de vote ou d'envoyer leur bulletin par la poste. On se souvient du suspense que cela avait ajouté au dépouillement. Voilà que la France, finalement, y songe aussi pour sa propre présidentielle.
Bonjour Claudia Bertram.
Bonjour.
Du service politique d'Europe 1, dites-nous à quoi pourrait ressembler ce vote par anticipation à la française.
Eh bien, très concrètement, les électeurs pourraient voter durant la semaine précédant le scrutin grâce à une urne électronique, ce qu'on appelle en fait une machine à voter. Et ça, ils pourront le faire dans une autre commune que la leur. Les suffrages seraient alors mis de côté et dépouillés en même temps que les autres le jour du vote traditionnel. L'idée, selon le ministère de l'Intérieur, c'est de répondre aux enjeux et aux demandes de modernisation du vote tout en garantissant la sécurité du scrutin. Ce serait aussi une façon de lutter contre l'abstention.
On le disait, Claudia, c'est une surprise qui fait déjà bondir l'opposition.
Et oui, car tout s'est fait au dernier moment et en toute discrétion. Le gouvernement a déposé un amendement hier au Sénat. Beaucoup s'étonnent que le vote anticipé n'ait jamais été abordé avant cela, surtout lors de l'examen du texte à l'Assemblée il y a quelques semaines. Du côté de l'exécutif, on explique que ce dispositif a été arbitré lors d'une réunion interministérielle récente. Bruno Retailleau, le président des sénateurs LR, y voit lui une manœuvre politicienne. Le chef de file des centristes, Hervé Marseille, qualifie l'amendement d'ovni ou plutôt d'opni objet. Parlementaire non identifié. Bref, cet amendement promet des débats houleux dès ce matin et demain au Sénat. La droite majoritaire ne compte pas le laisser passer.
Explication en direct de Claudia Bertram. Rappelons au passage qu'avant la présidentielle, dans 14 mois, doivent se tenir dans 4 mois les élections régionales.
Autre vote hier à l'Assemblée, le projet de loi contre les séparatismes a été adopté. Ça n'est que la première lecture, mais on note un vote assez large au sein de la majorité.
Oui, une seule voix contre parmi les marcheurs. Les Républicains et la France Insoumises se sont opposées au texte, les autres partis choisissant l'abstention. C'était 6 jours après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, s'en prenait sur Europe 1 à l'islamo-gauchisme et à ses ravages à l'université. Sa collègue, justement en charge des facs, Frédéric Vidal, a repris ce terme, mais seulement 4 mois plus tard. C'était dimanche dernier dans une interview.
Pour elle, l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble. Alors la ministre de l'Enseignement supérieur a demandé une enquête scientifique au CNRS pour définir ce qui relève de la recherche et du militantisme.
Oui, cela fait polémique et voici la justification de Frédéric Vidal hier lors des questions au gouvernement.
Alors oui, en sociologie, on appelle ça mener une enquête. Et oui, je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays, que ce soit les recherches sur le post-colonialisme. Mais moi, vous savez, j'ai été extrêmement choquée de voir au Capitole apparaître un drapeau confédéré et je pense qu'il est essentiel que les sciences humaines et sociales se penchent sur ces questions qui sont encore aujourd'hui d'actualité.
Réponse qui n'a pas convaincu l'opposition à gauche, à l'image du député socialiste Boris Vallaud.
Manifestement, Madame Vidal n'a pas grand-chose à faire. Il faut dire qu'on l'entend assez peu, c'est un peu un ministre sans portefeuille alors que la jeunesse et les étudiants sont en souffrance, que la recherche est à la peine. Elle crée des diversions. Il y a la liberté académique. Et je crois qu'il faut la respecter et surtout ne pas épouser les fantasmes des uns et des autres.
Le député des Landes, Boris Vallaud.
Nouveau point sur la vaccination ce matin en France, sur un total de 3 160 000 injections. On en est à 815 000 personnes qui ont reçu leurs deux doses. Et pour comprendre comment les doses de vaccins sont acheminées et réparties selon les départements, je vous renvoie à l'enquête de Victor Delande. C'était dans le journal de 7h. Vous la retrouvez sur europe1.fr.
De son côté, l'Organisation mondiale de la santé annonce une baisse de 16% sur une semaine, baisse des contaminations à l'échelle de la planète. Mais prudence, le feu n'est pas éteint, dit l'OMS. Et au niveau mondial, c'est aussi une pénurie qui inquiète l'économie dans son ensemble. Il n'y a pas assez de semi-conducteurs. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un composant essentiel pour fabriquer les puces électroniques que l'on trouve dans à peu près tous les objets et outils qui nous entourent.
Et c'est le dossier de la rédaction ce matin avec Aurélien Fleureau et Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Clément, d'abord, à quoi servent ces semi-conducteurs et pourquoi parle-t-on de pénurie aujourd'hui ?
Eh bien, les semi-conducteurs, c'est un peu le cœur de tous nos appareils électroniques. Nos téléphones, nos ordinateurs, nos consoles de jeux vidéo, il y en a partout. Il en faut aussi pour le réseau 5G et pour fabriquer nos voitures. Et avec le Covid, la plupart de ces secteurs ont connu une forte croissance en 2020, selon Aurélien Dutoit, économiste chez Euler Hermès.
On a eu des ventes de smartphones qui ont été plus résilientes qu'attendues. Avec le grand succès de l'iPhone 12 au quatrième trimestre, par exemple, on a un marché du PC qui est retourné à la croissance pour la première fois depuis près de 10 ans, en lien notamment avec la demande des entreprises avec l'essor du télétravail. Et puis également le lancement des nouvelles consoles de jeux de chez Microsoft et Sony.
Et tout ça a contribué à une augmentation rapide de la demande, sauf que l'industrie des semi-conducteurs, c'est une industrie au temps long. Il faut environ 4 mois et plus de 200 opérations à l'échelle microscopique pour les produire. Forcément, il y a un temps de latence pour répondre à la demande. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on ne trouve pas de PlayStation 5 depuis 3 mois.
Une pénurie de PlayStation 5, nous dit Clément Le Saffre. Aurélien Fleureau, en France, plusieurs usines automobiles ont dû ralentir leur production.
Oui, pas un constructeur n'est épargné, hein, pas même Tesla et son modèle intégré avec ses propres usines. Tous le disent, c'est désormais une gestion au jour le jour qui s'est installée. Il faut ajuster la production en fonction des composants disponibles et non plus uniquement en fonction des commandes. Renault a par exemple réduit le travail d'un jour par semaine sur plusieurs sites, notamment en Espagne. Peu de conséquences durables pour l'instant en France, mais certaines heures supplémentaires prévues le samedi ont été supprimées chez PSA à Sochaux et Irène. Même chose à l'usine Toyota d'Onin où la pénurie impacte la version essence de la Yaris, une baisse de production estimée à 6% pour le premier trimestre. Cela concerne des éléments dont les constructeurs ne peuvent pas se passer pour les aides à la conduite, mais aussi le système ABS ou tout simplement la fermeture centralisée des portes.
Ouais, ces puces électroniques sont donc indispensables et on comprend, Aurélien, que les constructeurs ne contrôlent pas leur production.
Effectivement, ils dépendent des équipementiers Bosch, Faurecia, Valeo, Continental, qui eux dépendent des fondeurs, ceux qui produisent ces puces, un marché ultra concentré. Le Taïwanais TSMC détient 70% du marché automobile à lui tout seul et les conséquences économiques seront majeures, explique Arnaud Aimé du cabinet Sia Partners.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du chiffre d'affaires en moins pour les constructeurs automobiles. On estime que c'est peut-être même jusqu'à 1 million de véhicules dans le monde qui ne seront pas produits à cause de cette pénurie de semi-conducteurs qu'on imagine pouvoir durer encore un an.
Et dernier élément qui permet de comprendre pourquoi l'automobile est coincée, c'est un secteur qui tire les prix vers le bas et donc qui n'est pas du tout une priorité pour des entreprises comme TSMC qui préfèrent des clients comme Apple ou d'autres géants de la tech qui payent bien plus cher leurs puces électroniques.
On le voit, c'est extrêmement concret. L'enjeu est aussi stratégique, hein, ce marché des semi-conducteurs. Clément, la France a-t-elle un plan pour ne pas être dépendante ?
Oui, mais c'est loin d'être gagnant. Il y a 30 ans, l'Europe représentait 40% de la production des semi-conducteurs. Aujourd'hui, l'Asie dévore tout. Taïwan, la Corée du Sud, la Chine et le Japon pèsent à eux 4 70% du marché. L'Europe, elle, est tombée à un petit 9%, ce qui n'empêche pas d'y croire. Le commissaire européen Thierry Breton veut un vaste plan de réindustrialisation pour les semi-conducteurs, comme celui déjà lancé sur les batteries électriques. Pour ça, il pourra s'appuyer sur ST Microelectronics, le champion franco-italien du secteur. La France, elle, cherche des candidats pour relocaliser la production de puces. X-Fab, un fabricant allemand, s'est déjà laissé convaincre il y a quelques semaines. Il voulait investir en Malaisie. Finalement, ce sera en France 21 millions d'euros de plus pour son usine en Essonne. C'est un premier pas, mais il ne faut pas attendre de miracle. À Bercy, on admet que le problème ne sera pas réglé en un claquement de doigts. Il va falloir beaucoup de temps.
Dossier signé Aurélien Fleureau et Clément Le Saffre. Merci à tous les deux.
Aucune pénurie de buts hier à Barcelone avec ce score de 4-1 pour le PSG en 8e de finale aller de la Ligue des Champions de football. On disait ici même hier que Mbappé devait prendre ses responsabilités. Alors on ne peut pas affirmer, enfin pas avec certitude, qu'il a écouté Europe 1, mais le message, il l'a entendu.
Golazo, exhibición y candidatura para tantas cosas de Kylian Mbappé. 85 de juego, Barça 1, PSG con hat-trick de Mbappé 4.
Le commentateur de la radio espagnole Cadena Ser, dépité par ce triplé de Kylian Mbappé. Pour la version française, eh bien, c'était Julien Froment sur Europe 1.
Mbappé pour le triplé, l'enroulé ! Oh oui ! Oh oui ! Et voilà ! Il l'a marqué de son empreinte ce match, Kylian Mbappé ! C'est lui le Messi de ce match, Kylian Mbappé !
A-t-il retrouvé sa voix ? Bonjour Julien Froment.
Bonjour.
On vous retrouve à Barcelone. Les responsabilités, on peut dire que Kylian Mbappé les a prises.
Ah, exactement, l'absence de Neymar et Di Maria, Kylian Mbappé a endossé le costume du héros hier soir, 3 buts pour l'histoire. Il est le premier français à réaliser une telle performance dans ce stade mythique du Camp Nou. 2 éclairs de génie, 1 but de renard, voilà comment le kit de Bondy a mis le Barça à ses pieds. Malgré une prestation assourdissante, et bien Mbappé est resté très lucide après la rencontre chez nos confrères de RMC Sport.
C'est très bien, je suis content. Voilà, j'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le Paris Saint-Germain. C'est un maillot qui me tient à cœur. C'est un match très important pour nous. Voilà, on voulait venir ici et gagner. C'est ce qu'on a fait, voilà, avec la manière. Maintenant, voilà, ce match c'est magnifique, mais on a rien gagné.
Un Kylian Mbappé qui a même reçu les félicitations d'un de ses adversaires du soir, mes coéquipiers en équipe de France, Antoine Griezmann.
Content pour lui, beaucoup critiqué, mais je crois que le Paris Saint-Germain a une future très grande star qui va être au niveau, je pense, de Léo ou de Cristiano, donc voilà, en profiter tous les jours.
Un match référence qui doit en appeler d'autres, tel est désormais le défi pour Kylian Mbappé s'il veut s'installer définitivement à la table des plus grands, même si hier soir, il faut bien l'avouer, il a mis toute l'Europe du foot à ses pieds.
Merci Julien Froment, allez donc boire une boisson chaude, vous étiez en direct de Barcelone pour Europe 1 et d'ici là vous aurez retrouvé votre voix pour le match retour dans moins de 3 semaines, le 10 mars.
Et 8h12 sur Europe 1, une nouvelle grande manifestation ce matin à Rangoon en Birmanie. Alors que les troupes sont déployées dans la ville, selon l'ONU.
Oui, les organisateurs du rassemblement appellent à la libération d'Aung San Suu Kyi, la chef du gouvernement arrêtée il y a 2 semaines et demie au moment du coup d'état militaire.
Venons-en à cette histoire assez incroyable. Un village normand s'oppose à l'homme le plus riche du monde.
Elon Musk, que l'on connaît pour Tesla, qui est aussi à la tête de SpaceX, entreprise qui veut développer l'arme absolue contre les zones blanches. Un réseau internet diffusé par satellite, ça s'appelle Starlink, on dirait le titre d'un film avec vaisseau et sabre laser, sauf que l'une des 3 stations terrestres de ce projet devrait être basée à Saint-Senier-de-Beuvron, commune de 350 habitants dans la Manche, ce qui ne ravit pas forcément les riverains rencontrés par Hélène Terzian pour Europe 1.
Ça se situe là à 60 mètres depuis notre maison. Hein. Ça, c'est les ânes qui vous disent bonjour. On leur a rien dit, hein, parce qu'après...
Jamais depuis leur maison de campagne, Dimitri et Anne-Laure n'auraient imaginé une vue plongeante sur 9 énormes paraboles hautes de 2,70 m.
Nous, à la base, on est venu s'installer là pour profiter du paysage, de l'environnement.
D'un coup, le ciel vous tombe sur la tête.
Avec les antennes d'Elon Musk comme nouvelle voisine, leurs craintes ne sont pas qu'esthétiques. La société en charge de l'installation assure aux jeunes parents que les ondes ne seront pas nocives, mais ils se méfient.
Des associations nous ont dit quand même que c'était des fréquences assez importantes. Ça pourrait être un gros micro-ondes, vous ne pouvez pas rester à côté, quoi.
Clairement, si ça s'installe, tout notre projet de vie est revu. Savoir si on part ou pas.
Depuis 3 mois, le couple peut compter sur le soutien de la mairie et des élus locaux. En tête, le conseiller régional écologiste François Dufour, natif du village.
Il faut absolument que les citoyens de cette commune s'organisent et puissent saisir la justice. Nous devons rester debout, la tête haute, et nous devons nous battre même contre M. Musk.
En attendant, l'élu demande à l'État d'informer la population sur ce projet. Saint-Senier-de-Beuvron, Hélène Terzian, Europe 1.
Allez, on va terminer ce journal en musique avec un hommage à une figure du reggae en France, Tonton David, dont vous connaissez ce tube.
Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, des fleurs que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.
Chacun sa route, que l'on avait entendu dans le film culte Un Indien dans la ville en 1994. Tonton David qui disparaît à 53 ans, célèbre aussi pour sa chanson Peuple du Monde.
C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1, 8h14.
Europe 1, Sébastien Krebs.
À suivre, Sonia Mabrouk et son invité ce matin, l'enseignante et essayiste Fatia Boudjalat. Elle enseigne en zone prioritaire, il sera notamment question de laïcité à l'école. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9.
Sébastien Krebs.
8h17, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Sonia, vous recevez l'enseignante et essayiste Fatia Boudjalat, cofondatrice du mouvement Vivre la République.
Bienvenue à vous et bonjour Fatia Agag Boudjalat.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Vous êtes professeure d'histoire-géographie dans un collège de Toulouse, classé REP, c'est réseau d'éducation prioritaire. Depuis son témoignage dénonçant la mainmise islamiste à Trappes et en particulier dans le lycée où il enseignait, le professeur de philosophie Didier Lemaire se voit contester sa version par certains avec des tentatives de décrédibilisation. Pour vous, qu'est-ce qu'il incarne cet enseignant ?
Je dirais qu'il incarne les maux de cette époque, c'est-à-dire qu'on ne va défendre les enseignants que quand ils sont morts, voilà, parce qu'il faut un drame pour arracher le soutien. Je vois le déferlement, le Monde, Claude Ascolovitch, tous ces articles de pseudo-fact-checking depuis son fauteuil, avec, ça m'a rappelé Clémentine Autain qui est allée prendre une photo, la pose dans un bar de Sevran. C'est des gens qui ne vivent pas dans ces zones-là et qui ont l'air d'être de missionnaires en Papouasie-Nouvelle-Guinée en disant « Regardez, ce sont des gens normaux, je peux m'y promener. » Oui, mais est-ce que vous y vivriez ? C'est ça la vraie question. Donc je vois ce déploiement contre lui, je veux lui dire mon soutien, et j'ai plus d'estime pour ce témoignage d'un collègue sur le terrain depuis 20 ans que pour un Benoît Hamon qui était député de cette circonscription sans y vivre, qui habitait à Issy-les-Moulineaux et qui célèbre les kebabs, la kebab attitude et puis les jeunes, mais qui ne veut surtout pas que ses filles aillent à l'école avec ces jeunes. Voilà cette hypocrisie, moi, que j'aimerais dénoncer.
Benoît Hamon qui soutient le maire de Trappes. Et voilà ce que dit le maire de Trappes, Fatia Agag Boudjalat. Il dit, mais moi, je ne veux pas de quelqu'un qui jette de l'huile sur le feu, qui exacerbe les tensions, qui noircit le tableau et la réalité de ma ville. Que pensez-vous de cette contre-attaque ?
Ben je pense que lui, en pénétrant dans un lycée, a mis de l'huile sur le feu, que lui a exacerbé les tensions, qu'il aurait pu dire « voilà un diagnostic, voilà quelqu'un qui raconte des faits, mais je ne suis pas d'accord avec leur analyse ». Il a pénétré dans un lycée alors qu'on lui en avait interdit l'accès, c'est du jamais vu.
Alors il y a eu un tractage, précisons, distribution de tracts, effectivement, dans l'enceinte d'un établissement
dans l'enceinte
scolaire.
Devant, le proviseur lui avait dit de rester à l'extérieur, il a quand même pénétré dedans, et il a été invalidé, son élection a été annulée. Donc c'est quelqu'un qui est dans une démarche politique. Didier Lemaire n'a rien à gagner. Les profs qui...
Qu'est-ce que ça veut dire « n'a rien à gagner » C'est-à-dire un professeur qui parle aujourd'hui est une cible ?
C'est une cible et surtout, vraiment, c'est tellement violent ce qu'on peut se prendre, ce que moi j'ai pu me prendre, que si on fait ça, c'est vraiment qu'on pense... Bah, voilà, c'est déjà tellement grave ce qui se passe, on prend un risque, on n'a rien à gagner. Tellement on se prend de choses. Il n'y a pas de poste à gagner, il n'y a pas de prébende à gagner, il n'y a pas d'honneur à gagner. C'est tellement violent ce qu'on se prend. Donc, vraiment, un prof qui fait ça, il se dit, mais on arrivait à une situation tellement extrême que c'est le dernier pas avant que je démissionne, avant que je parte ou avant que je me taise à jamais.
Mais alors, qu'est-ce qu'on a retenu ? Qu'est-ce qu'on a retenu, selon vous, des tragiques leçons de l'assassinat terroriste du professeur Samuel Paty ? On avait dit à ce moment-là, il y a peu, il y a quelques mois à peine, c'est le sursaut, plus jamais ça.
Vous savez, au bout de 10 jours, le prof bashing reprenait. Voilà. Je crois qu'en France, on a tellement été touchés par les drames qu'on s'y est presque habitué. C'est terrible à dire
habitué
ça. Oui, habitué. Et moi, je vois dans mon collège, les mêmes collègues qui célébraient la liberté d'expression, Samuel Paty, sont allés au rectorat pour demander à ce qu'ils me fassent taire. Voilà ce qu'ils ont demandé. Que cette exposition était dangereuse. Donc vous voyez, le manque de courage. J'avais parlé de temple de lâcheté à l'époque. Bah, le temple de lâcheté, c'est pas que de la haute administration. Hein. Ça commence dans le terrain, sur le terrain. Et je voudrais dire que Samuel Paty, rappelé, ses collègues ne l'ont pas soutenu. C'est là que ça commençait. Et finalement, Samuel Paty, s'il n'avait pas été assassiné en plus dans ces circonstances, ben il se serait pris des articles du Monde contre lui. Il se serait pris une petite tribune de Claude Ascolovitch contre
vous
lui.
Vous ciblez hein, quelques personnes, on entend, journalistes, quelques supports également médiatiques. Vous pensez qu'il participe à un climat aujourd'hui ? C'est assez lourd comme accusation.
Moi, je peux cibler des syndicats comme le syndicat Sud, qui est dans le séparatisme. Quand on fait des formations réservées aux gens de couleur et d'autres réservées aux blancs, la ségrégation raciale, pour moi, on est dans le séparatisme. Voilà,
parce qu'ils vous ont eux-mêmes ciblé, Fatia Agag Boudjalat, certains syndicats vous ont dit que vous stigmatisiez, que vous mettiez en danger vos élèves quand vous avez relaté ce qui s'est passé dans vos classes lors de l'hommage à Samuel Paty.
Il faut savoir ce qu'on veut. On parle de liberté d'expression, on dit qu'il faut faire remonter les réalité du terrain. J'ai dit que 5 élèves de mon collège n'avaient pas fait un minute de silence, que ces 5 élèves appartenaient à la classe d'accueil. Et pour moi, c'était positif, hein, parce que s'ils sont à la classe d'accueil, c'est qu'ils viennent d'arriver, ils n'ont pas eu les cours sur la laïcité, et qu'en plus, ils étaient de confession musulmane. C'est factuel. Ils peuvent porter plainte contre la réalité si la réalité les dérange, cette lâcheté. Quand des profs syndiqués à Sud font ces formations, quand des profs font venir Assa Traoré dans les lycées d'Île-de-France, c'est quoi la finalité pédagogique? On a des gens qui sont dans la transmission du ressentiment. Ils créent du trauma. Ils créent du trauma et ils le transmettent aux élèves. Des élèves qu'on empêche de s'enraciner. Ils sont ici chez eux. Mais on leur dit, non, ici, tout le monde est méchant avec vous. Et même des gens comme moi, issus de l'immigration, qui arrivent à être profs à la fac, je pense à la fac de Toulouse, Jean Jaurès, transmettent ce trauma du racisme systémique alors que eux-mêmes, leur exemple, leur vie, le dément.
Je vais vous citer une phrase, et c'est l'écrivain Omar Youssef Soleiman qui a animé un atelier justement d'écriture à trappe avec Didier Lemaire. Il raconte cet épisode où il pose cette question tout simplement aux élèves. Qui parmi vous va fêter Noël ou bien la Saint-Sylvestre? La réponse fuse, personne. Ce n'est pas notre fête, nous sommes des musulmans. Comment on répond? Qu'est-ce qu'on répond à cela? Et comment il faut être formé pour répondre à cela?
Bah écoutez, j'avais une collègue anglaise récemment formée qui s'était opposée à ce qu'on mette un sapin au collège parce qu'elle disait c'est pas laïque, c'est pas laïque. Je lui ai dit qu'elle comprenait vraiment rien à la France et je suis allée chercher moi-même cette année un sapin et je l'ai trimballé dans mon caddie de vieux pour l'emmener jusqu'au collège. Et des petits élèves l'ont décoré, des élèves musulmans qui en ont pas chez eux mais qui trouvaient ça festif, joyeux. Je crois qu'il faut mettre un peu de bon sens, qu'il faut être un peu intelligent puis pas oublier quelque chose. C'est la fête des enfants. Et mon neveu qui dit à ma mère c'est faut pas fêter Noël, c'est haram. Et ma mère lui dit bah tant mieux, je te ferai pas de cadeaux. Ah non, les cadeaux c'est pas haram, ça tu peux. Voilà, je crois qu'on est en train de créer une orthodoxie très morbide.
Par
voilà,
des discours Fatia Agag Boudjalat qui sont inculqués à l'école, à l'université, qui imprègnent forcément des générations entières. Oui. Certains de ces discours sont imbibés, c'est ce que dit le gouvernement, hein, d'islamo-gauchisme, mêlant thèse décoloniale et nouvelle antiracisme. À ce sujet, vous l'avez entendu, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, veut demander une enquête au CNRS pour découvrir quoi, selon vous? Pourquoi ça vous fait rire?
Oui, parce que le CNRS fait partie, justement. L'ancien directeur avait parlé, justement, de cette blanchité, de ces choses-là. Donc c'est drôle que...
Il est partie prenante de ces thèses que veut dénoncer
la ministre. Voilà, c'est à la mode. Les sciences sociales, quand même, c'est pas très fatigant. Avant, il fallait faire des enquêtes de terrain, il fallait de bons statistiques pour faire de la sociologie. Maintenant, vous regardez votre nombril et vous dites, tiens, voilà ce que je suis, voilà ce que je pense. Éric Fassin, qui est un des papes de cette école-là, il a agrégé d'anglais. En quoi ça le prédispose à être spécialiste du racisme systémique? On a un vrai problème avec les sciences sociales dans ce pays, et on est confronté au soft power américain, au soft power islamique, et face à ça, on n'oppose rien. Et c'est pour ça que j'aimais bien cette loi sur le séparatisme. Il faut défendre notre modèle. Notre modèle, il est beau.
Elle donne des outils, justement, supplémentaires qui viennent s'ajouter à un arsenal pour proposer des garde-fous à ce que vous décrivez, à ce que vous dénoncez, cette loi, ce projet de loi?
Je pense pas, parce qu'il y a la loi d'autonomie des universités, mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait de la diversité. La diversité, c'est pas qu'il y ait un noir, un blanc, un arabe qui pensent tous pareil. Hein. La diversité, elle est d'abord idéologique. Et là, il faut voir la violence des attaques subies par Stéphane Beau et Gérard Noirel, qui étaient des sociologues étiquetés de gauche, tout bien comme il faut. Ils ont osé remettre en cause l'existence des races sociales, ce qu'ils en font. Ben voilà, on les traite maintenant de rouge-brun. Voilà comment on les disqualifie.
Vous dites souvent, Fatia Agag Boudjalat, que vous devez beaucoup à l'éducation nationale, sans oublier bien sûr, et je l'ajoute parce que je sais qu'elle nous écoute probablement ce matin, le rôle de votre maman, bien sûr, qui vous a élevé avec vos 7 frères et sœurs, mais vous insistez beaucoup vous-même pour dire pas de discours victimaire, malgré les difficultés, malgré le parcours.
La question, c'est toujours, quelle est la finalité? Il faut que ce soit efficace. Si je tiens le discours victimaire à un jeune, qu'est-ce que je vais lui transmettre? Qu'est-ce qu'il aura envie de faire? Rien. Voilà, il faut être... Ça m'empêche pas d'être lucide sur les difficultés de vie sociale. Et nous, on est allé au Resto du Cœur, on s'habillait au Secours catholique. Ma mère faisait le ménage, elle avait 5 employeurs différents. Donc moi, j'ai rien à apprendre par rapport à ces petits bourgeois pénitents, c'est comme ça que je les appelle. Mais quelle est la finalité? Ben moi, voilà, on transmet du trauma, du ressentiment, du morbide. Ben non. Là, en France, il y a des choses qui fonctionnent et la majorité des choses fonctionnent. Quand j'étais petite, il y avait des meurtres racistes. Il y avait des meurtres racistes. Ben, ça n'existe plus, si. Les seules personnes assassinées, ce sont les personnes juives, c'est pas les personnes musulmanes ou arabes. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui va permettre aux enfants de s'élever dans la société, de s'émanciper, de réussir? Ben, faut leur donner envie de s'enraciner, puis surtout, faut leur dire qu'ils ont le droit d'être heureux. Faut tenir ce discours-là.
Enseigner, malgré tous ces défis, c'est votre métier, c'est votre passion, mais pas votre mission. Vous n'aimez pas dire que vous ne le considérez pas comme une mission. Pourquoi ?
Parce que quand vous mettez le terme missionnaire, ça vous, c'est comme humanitaire. Vous êtes là pour transmettre de l'humanité. C'est d'une condescendance insupportable. Ces gamins, bah c'est nos gamins, ce sont nos compatriotes. Et je vois beaucoup de collègues qui sont attachés au collège ghetto, mais à 17h, ils rentrent chez eux. Et ils n'habitent pas dans la ville où ils travaillent. Et ils ne voudraient pas y habiter. Et leurs enfants, ils ne voudraient pas qu'ils soient scolarisés dans ce genre de bahut. Donc non, pas de mission. C'est un métier, ça demande des techniques, ça demande une compétence. Et puis, ça demande tout simplement un respect de la part des gens. On n'est pas des sauveurs. Voilà,
et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on insuffle le respect réciproque.
Le respect réciproque et l'autorité.
Bien sûr.
L'autorité, c'est pas simplement moi qui vais donner des ordres de colle et moi qui vais imposer les choses. C'est les enfants qui consentent à obéir parce qu'ils savent que c'est dans leur intérêt. C'est cette autorité-là sur laquelle repose notre travail.
Voilà, l'école version Fatia Agag-Boudjelad. Vous savez, vous allez avoir beaucoup de réactions. Merci en tout cas d'avoir répondu directement à nos questions. À noter vos deux ouvrages, Le Grand Détournement, Combattre le voilement, et puis à venir, les Nostalgériades, Nostalgie, Algérie, Jérémiade, quel programme. Bonne journée à vous.
Merci
et
Sonia.
À nos auditeurs.
Bonne journée.
8h28 sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Et dans un instant, toute l'info, le journal d'Hélène Zellani, Notre Santé avec le docteur Jimmy Mohamed et Fanny Agostini pour Notre Planète. À tout de suite.
Europe Matin. Le 7-9, Sébastien Krebs.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zellani.
Et le PSG n'a fait qu'une bouchée du FC Barcelone. Vous l'avez peut-être suivi hier soir sur Europe 1. Les Parisiens l'ont emporté 4 buts 1, dont 3 signés Mbappé. C'est la première fois qu'un club français l'emporte au Camp Nou en Ligue des Champions. Henri de Laguérie, vous êtes en direct de Barcelone pour Europe 1. Ce matin, les journaux espagnols rendent surtout hommage à la superstar de la soirée.
Oui, c'est assez exceptionnel de voir un footballeur français à la une des 5 quotidiens sportifs espagnols. Mbappé écrase le Barça, titre le journal Sport à sa une. L'ouragan Mbappé chez AS. Le français laisse KO un Barça impuissant, écrit le Diario Ara, qui parle d'une nuit de couronnement en Europe pour le français. On se souviendra de son passage ici comme celui du monstre qui ne te laissait pas dormir lorsque tu étais petit, écrit le journal. Mbappé, convoité par le Real Madrid, va voir sa cote grimper en flèche et je peux vous l'assurer, il va collectionner les unes pendant plusieurs mois. Alors pour Mundo Deportivo, on a assisté hier à un passage de témoin entre Messi et Mbappé, entre le passé récent et l'avenir immédiat du football mondial. Dépité, le journal catalan passe les joueurs du Barça à la sulfateuse. Ils sont arrogants, ils ne vivent que du souvenir de leurs lointains exploits. Ils ont démissionné hier soir, ajoute El País, et le match retour risque d'être encore une fois sanglant pour un club qui a perdu sa compétitivité et son orgueil.
Henri de Laguérie à Barcelone et le match retour, c'est le 10 mars au Parc des Princes. Autre rendez-vous football ce soir en Ligue 1, match en retard de Marseille à Nice. Nouveau conseil de défense ce matin, alors que la course à la vaccination se poursuit, plus de 3 millions de Français ont reçu au moins une injection, mais c'est très variable selon les départements. Il faut parfois faire des kilomètres pour avoir un rendez-vous dans un centre. Exemple, à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, seulement 20% des personnes vaccinées sur place sont des habitants de la commune. Écoutez le reportage de Marine Protet.
Les gens qui se font vacciner viennent plus de Paris ou sinon dans les alentours. Tout ce qui est Dugny, Drancy, Bourget.
Aminata, chargée d'accueil, dresse le même constat depuis l'ouverture du centre il y a un mois. Sur les 70 patients qu'elle voit passer chaque jour, très peu d'habitants de la Courneuve.
En Seine-et-Marne, le 77, j'ai une dame qui est arrivée. Elle nous a dit c'est parce que c'est la seule place que j'ai pu trouver.
C'est exactement le problème auquel a été confronté Antoine. Absolument aucun créneau disponible pour ce Parisien de 70. 18 ans.
Il n'y a pas de place. Le truc santé.fr donne rien. Tout passe par Doctolib. J'ai vu tous les centres de Paris, il y en a 19. Tout était plein. Il n'y avait aucune attente possible. On ne pouvait pas réserver. Il n'y avait rien. 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 Rien.
Soulagé d'avoir trouvé un centre de vaccination, ce retraité va quand même devoir refaire le trajet dans 24 jours pour sa deuxième injection.
Marine Protet, sur les 7 derniers jours, on compte 18 000 cas quotidiens en moyenne. C'est stable, avec même une tendance à la baisse par rapport aux semaines précédentes. Malgré tout, la proportion de variants continue à augmenter. Aujourd'hui, la Commission européenne lance son programme de recherche sur l'étude de ces variants. Et si on votait par anticipation pour la présidentielle de 2022, c'est ce que souhaite le gouvernement qui vient de déposer un amendement au Sénat. Manœuvre politicienne, dénonce le président des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Hier soir, l'Assemblée a largement adopter le projet de loi contre le séparatisme qui passera devant le Sénat fin mars. Et maintenant, nous vous emmenons en Libye où on célèbre aujourd'hui le 10e anniversaire de la révolution qui a renversé le régime de Kadhafi. Depuis, le pays vit dans le chaos, fracturé entre Est et Ouest et entre offensive et cessez-le-feu. Nous rejoignons notre envoyée spéciale Gwendoline de Bono. Vous vous êtes rendue dans l'Ouest de la Libye, Gwendoline, à la rencontre de cette jeunesse qui s'est soulevée contre le pouvoir il y a 10 ans.
Oui, au cœur de Tripoli, des adolescents jouent au foot près de la forteresse Ocre. Un père négocie un tour de poney pour son fils. Hussam Nadjar, lui, observe cette place des martyrs avec le sourire.
Ça fait 10 ans et voir des gens libres comme ça, c'est tout ce pour quoi on s'est battu.
Le cœur de Tripoli s'appelait encore Place Verte lorsque cet ancien rebelle et sa brigade s'en sont emparés il y a 10 ans, après des jours de combat contre les troupes de Muammar Kadhafi.
Quand on est arrivé à l'entrée de la place, je me suis dit, on est arrivé à Tripoli. J'ai plus beaucoup de concentration pour me battre, et même si j'étais épuisé à l'intérieur, j'exultais comme un volcan. Quand la place des martyrs est tombée, on savait que la fin de Kadhafi était proche. Entrer sur la place des martyrs il y a 10 ans est probablement le plus intense et le plus beau de mes souvenirs.
10 ans après, Gwendoline, que sont devenus ces rebelles qui se sont soulevés contre Kadhafi ?
Eh bien, depuis 10 ans, dit Hussam, nous sortons nos fusils du placard régulièrement. Après la révolution, la Libye a connu les offensives contre l'État islamique, mais aussi la guerre civile. L'économie est dévastée et le pays est coupé en deux. Nous sommes dans un baraquement sur le front qui marque cette séparation entre Est et Ouest. Ahmed Ali fait cuire le déjeuner pour son unité. Il a 36 ans et ne cache pas sa lassitude.
On n'a même pas eu la chance de se marier en 10 ans. Ici, chacun voudrait se marier et avoir des enfants, des perspectives. Mais personne n'est marié. Et chaque année ou année et demie, une nouvelle guerre commence. Je n'ai pas envie d'imposer à ma femme de vivre avec moi, dans ma maison, et de me retrouver à partir sur le front à Tripoli ou je ne sais où en la laissant seule. J'en sais rien, c'est juste pas possible. Moi, je veux partir étudier à l'étranger pour obtenir une maîtrise ou un doctorat et revenir au pays avec une meilleure éducation qui profite au pays et au monde en général.
Avant de s'engager dans la rébellion, il venait d'obtenir son premier diplôme d'ingénieur. Mais en Libye, aujourd'hui, dit-il, il n'y a presque que les armes qui garantissent un salaire.
Gwendoline de Bono, envoyée spéciale d'Europe 1 en Libye. Hier, le chef de l'ONU a réclamé le départ des mercenaires et militaires étrangers. Il serait environ 20 000 dans le pays. Aux États-Unis, Joe Biden défendait son plan de sauvetage de l'économie de 1 900 milliards de dollars. Il faut frapper fort, a dit le président américain, qui espère créer 7 millions d'emplois cette année. Il est sauvé, le dernier spécimen au monde d'une espèce d'arbre disparu vient d'échapper de justesse à l'abattage. Ce Crudia zélanica, je vous jure que c'est son nom, de 8 mètres de haut, devait être abattu pour permettre la construction d'une autoroute au Sri Lanka. Mais finalement, face à la levée de bouclier des militants écologistes, le projet a été abandonné. Puis un mot du l'Open d'Australie de tennis avec la qualification du numéro 4 mondial Medvedev pour les demi-finales. Il affrontera le vainqueur de la rencontre entre Nadal et Tsitsipas.
Non pardon, je suis resté bloqué sur le Crudia zélanica, il fallait le trouver quand même celui-là. Mais il est sauvé, c'est au moins la bonne nouvelle, le Crudia zélanica. Merci Hélène Zélani pour le journal 8h37. Laurent Cabrol, vous avez un arbre, vous, à votre nom ou pas?
Ah bah, c'est avec un nom pareil, je préfère pas, Marc. Hein. Alors, en ce qui concerne le soleil, il sera là sur la région nantaise, avec la Loire aujourd'hui, le Berry, l'Alsace, le Dijonais, le Poitou-Charentes, Massif Central, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Sud-Ouest et Bassin Méditerranéen. Dans toutes ces contrées, au fil des heures, le soleil va s'imposer. Et puis sur une petite moitié nord, allez, on va dire un tiers nord, nous aurons quelques bruines sur les côtes de la Manche et la mer du Nord, sur la Champagne-Ardenne, la Lorraine, le Morvan, la région parisienne, des nuages, il y a du bruit notamment près de Roissy, des nuages et quelques gouttes de temps à autre. Les températures maximales entre 12 et 16 degrés, c'est doux, ce sera encore plus doux vendredi, samedi, dimanche.
Merci Laurent Cabrol. 8h38, dans un instant, on prend soin les uns des autres, notre santé, avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On parle de la myopie des enfants ce matin.
Oui, et d'une révolution technologique, des verres de correction qui vont stopper l'évolution de la myopie chez les enfants.
A tout de suite Jimmy, Fanny Agostini nous rejoint aussi. Chaque matin, elle nous donne des solutions qui marchent pour améliorer notre environnement. Et puis Nicolas Canteloup sera bien sûr de la partie, 8h38.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
8h39 sur Europe 1, notre rendez-vous avec notre santé. C'est le docteur Jimmy Mohamed qui est avec nous. Alors Jimmy, on parle de la myopie des enfants. Myopie qui pourrait être freinée donc avec de simples lunettes ?
Oui, alors tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que la myopie, c'est le trouble de la vision le plus fréquent. Pour vous donner une petite idée, 60% des porteurs de lunettes âgés de 18 ans sont myopes. Cette myopie, elle est assez facilement repérable chez l'enfant. Elle débute aux alentours de 6-7 ans et elle va entraîner une vision floue des objets de loin. Et vous pouvez vous en rendre compte si jamais votre enfant se rapproche trop de la télévision ou s'il n'arrive plus à lire au tableau. Le problème, c'est que même lorsque cette myopie est prise en charge correctement, eh bien, elle va progresser. Et elle va progresser d'autant plus rapidement que l'enfant est jeune, et en particulier avant 10 ans. Et là, il existe une nouvelle technologie, c'est vraiment une véritable petite révolution, qui va permettre justement de stopper l'évolution de la myopie chez les enfants.
Alors, comment ça marche ?
Alors, c'est tout simple. C'est des verres de correction qui vont à la fois corriger la myopie, mais aussi freiner en moyenne de 60% l'évolution de la myopie chez les enfants par rapport à des verres classiques. C'est une véritable révolution pour bien que vous compreniez. Imaginez que votre enfant de 6-7 ans porte des lunettes pour une petite myopie, une petite correction. Eh bien, en portant ces verres, cette myopie va se limiter dans le temps et elle va moins progresser. Ça veut dire qu'à l'âge adulte, votre enfant aura moins de problèmes de vision grâce à ces verres qu'il a pu mettre dès le plus jeune âge. Et puis l'avantage, c'est qu'il est impossible de faire la différence à l'œil nu entre ces verres et des verres classiques. Vous n'allez pas vous retrouver avec des verres qui vont être moches, une monture particulière. Ils vont vivre exactement la même vie car ils ont exactement le même aspect. Pour vous donner un peu une perspective, sachez que 50% de la population mondiale sera myope d'ici quelques années. Et le problème, c'est que c'est les écrans qui vont nous rendre myopes, car on entraîne notre œil à être un peu feignant, à regarder sur de très courtes distances, toujours sur 20 à 30 cm. Et c'est pareil chez les enfants. Alors, je vais vous donner deux conseils très pratiques pour essayer d'éviter cette myopie. La première, c'est évidemment de limiter les écrans, mais de sortir les enfants. Les enfants ont besoin d'être dehors, même en période de pluie, de mauvais temps, même en période de couvre-feu. Avant 18h, mettez-les dehors. Ils ont besoin de regarder au loin l'oiseau qui se trouve dans l'arbre pour éviter d'avoir un œil qui va être un peu feignant. Et puis, n'oubliez pas que la meilleure prise en charge reste la prévention, et donc, amener les enfants vers l'âge de 5-6 ans chez l'ophtalmo pour faire un petit contrôle. Et puis, si tout va bien, on remet une pièce dans la machine et on repart comme si de rien n'était.
Voilà, on prend soin de nous chaque matin avec vous, docteur Jimmy Mohamed. Les écrans vont nous rendre myopes. Hein. Attention, prudence. Dans son rendez-vous, vous y revenez tout à l'heure à 15h ?
Exactement, avec un professeur, le professeur Dominique Brémond-Gignac. Elle est spécialiste de la myopie chez les enfants. Soyez au rendez-vous, ça vaut vraiment le coup.
Avec Mélanie Gomez. À tout à l'heure, Jimmy, merci. Et bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre planète, vous traquez pour nous les solutions qui marchent, les initiatives qui produisent des effets positifs sur notre environnement. On va parler d'alimentation ce matin. Fanny, on parle d'une sécurité sociale de l'alimentation. Ça veut dire quoi ? Qu'on pourrait aller acheter ses oignons ou ses carottes avec sa carte vitale ?
Mais oui, c'est ça. Tout comme vous le faites, en fait, lorsque vous tendez votre carte vitale à votre médecin pour le remboursement de la consultation, eh bien, vous pourrez demain utiliser une carte à puce pour vous payer des produits locaux, de saison et sains. L'idée de la sécurité sociale de l'alimentation est défendue par le collectif du même nom et c'est une piste de solution prise très au sérieux et qui fait débat à l'Assemblée. Le concept, il est simple. Vous avez une carte en poche, créditée de 150€ par mois, par exemple, et avec cet argent, impossible de vous acheter des produits industriels gras, sucrés, transformés ou importés. Avec cette carte, vous pourrez vous payer uniquement des denrées dans les magasins de petits producteurs, dans les marchés locaux ou encore dans le rayon produits régionaux de votre supermarché.
Et c'est efficace pour réorienter les achats ?
Ben c'est un peu l'idée. Vous connaissez l'expression en vogue de la fourche à l'assiette. Eh bien là, je vous propose de renverser la formule de l'assiette à la fourche, c'est-à-dire du consommateur vers l'agriculteur. C'est ce que soutient Mathieu Dalmé, ingénieur agronome porte-parole du collectif, qui considère que c'est notre alimentation qui peut et qui doit transformer l'agriculture. Plus difficilement l'inverse. Et pour cela, il faut un outil macroéconomique capable de soutenir la population pour acheter mieux. Et à partir de là, ben on entre dans un cercle vertueux pour soutenir une agriculture plus durable. C'est un vrai levier économique, un levier économique énorme pour transformer notre modèle agricole.
Et pour vous, Fanny, bien manger, ça n'est pas négociable, ça ne doit pas être réservé seulement à ceux qui en ont les moyens.
Ben oui, cette aide sociale nourricière part aussi du constat que le concept de consommateur a ses limites. Vous savez, cette croyance selon laquelle les citoyens détiennent tous les pouvoirs pour accélérer la transition agricole vers des méthodes de production durables qui préservent le vivant et par là même notre santé. Alors, c'est à moitié vrai, car quand les fins de mois sont difficiles, les achats engagés sont impossibles. Ce système aurait donc la vertu de jouer sur plusieurs tableaux. Il permettrait à la fois aux plus modestes de manger des produits sains, aux agriculteurs de mieux vivre de leur métier, tout en améliorant les pratiques culturelles et d'élevage pour faire une agriculture qui soit une alliée contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité.
Voilà donc une solution, la carte vitale de l'alimentation en quelque sorte, qui permet uniquement d'acheter dans des magasins de petits producteurs des produits locaux et de bonne qualité. Merci à vous Fanny Agostini, à demain. Il est 9h moins le quart, c'est l'heure de notre respiration musicale du matin. Nouveau rendez-vous cette semaine, en attendant bien sûr le retour de Nicolas Canteloup dès lundi. On écoute le monde chanter avec vous, Angèle Châtelier.
Oui, bonjour Sébastien. Bonjour. Bah, on écoute Hervé. Hervé, révélation masculine de l'année aux victoires de la musique.
Son histoire et d'autres extraits de son album dans un instant avec Angèle Châtelier. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
8h47, le meilleur de Nicolas Canteloup est à venir, mais d'abord on écoute le monde chanter. Avec vous Angèle Châtelier, un chanteur récompensé par la victoire de la musique de la révélation masculine de l'année. On écoute Hervé. Avec
Hervé
vous.
Et son cœur poids plume, pour reprendre l'un de ses titres phares. Hervé, 28 ans, beaucoup l'ont découvert alors qu'il faisait des crêpes dans sa cuisine. Oui, oui, il devait tourner un clip, mais le premier confinement est tombé, alors il a fait avec les moyens du bord. Pendant 3 minutes 30, on le voit danser frénétiquement et retourner ses crêpes. Le clip en est bientôt à 2 millions de vues.
Et bon, j'imagine qu'il n'a pas commencé la musique avec ce clip.
Et avec ses crêpes. Non, il a longtemps été en coulisses à utiliser sa plume pour les autres. Le grand Johnny Hallyday, notamment. Hervé co-signe 3 de ses chansons. Et puis, il a partagé la scène avec Eddie Depréto en faisant quelques-unes de ses premières parties. Mais c'est grâce à son premier album qu'il devient, vous le disiez, la révélation masculine cette année aux Victoires de la Musique. Un premier album appelé Hyper.
Ne chasse pas, trésor, trésor. Tu sais combien t'as compté. Mes désirs font des ordres, trésor.
Hyper, comme hyperactif, Hervé est une pile électrique sur scène comme dans la vie. Il compose, écrit, produit ses titres depuis son petit appartement. Il ne s'arrête jamais. Et le nom de cet album, Hyper, est aussi un clin d'œil à l'hypersensibilité, ne pas trop savoir quoi faire de ses sentiments, qu'il vit, lui, intensément, c'est ce qu'il m'a confié.
Je prends hyper fort toutes mes émotions, les choses. Et en musique, c'est un terrain de jeu, en tout cas, que j'aime explorer avec cette sensibilité-là, parce que je m'ennuie jamais, quoi.
Et vos émotions ont explosé lorsque vous avez gagné cette victoire de la musique.
Cette année, la victoire de la révélation masculine est attribuée à
Hervé.
Merci infiniment.
Bah ouais, je suis très heureux, je suis très fier. En fait, je m'y attendais pas du tout parce que ça a été une année particulière. C'était une année assez riche en réalité. Moi, je me suis pas arrêté entre l'Olympia qu'on devait faire. Finalement, on l'a fait filmer. Tous les clips que j'ai fait au téléphone pendant le confinement. Et du coup, ça vient comme une vraie victoire pour le coup, quoi.
Vous avez votre trophée en face de vous là ?
Ah, juste au-dessus de moi, je le vois là.
Hervé, donc, révélation masculine de l'année. Il était vraiment très ému, c'était beau à voir.
Ouais, il était au bord des larmes.
Et son album Hyper est donc à découvrir dès maintenant.
Et alors, juste avant, quand on l'a vu chanter, il a une énergie de dingue. Alors,
ouais.
On n'a pas entendu la chanson où il fait des crêpes.
Où il fait des crêpes, et bien la voici, c'est Si bien du mal.
7 heures désert, eagle, sensible mais sensible. 6 heures en tente mineure sur mes ennuis. 5 heures par quel mystère, je crois qu'elle m'aime. On se fait si bien du mal, on fait si bien, on se fait si bien du mal. On se fait si bien du mal, on fait si bien, je crois que ça devient animal. Pourquoi tu te fais la mal quand je te fais du bien, quand tu te fais du mal, tu reviens.
coup très sûrement. Trois sœurs voisines qui gueulent, on s'ennuie à mourir. Deux heures comme un quart d'heure, tu feras na demain. Neuf heures, rien de neuf, non, rien ne bluffe. On se fait si bien du mal, on fait si bien. J'crois que ça devient animal. Pourquoi tu te fais la mal quand je te veux du bien? Quand tu te fais du mal, tu reviens. Dis-moi si je te fais mal quand je te fais du bien. Bah, bah.
Il a un petit côté Bachung jeune,
évidemment.
Hervé.
Évidemment.
Avec sa voix un peu cassée. Hervé, si bien du mal, révélation masculine aux Victoires de la musique. Son album s'appelle
Hyper.
On écoute le monde chanter et on découvre des artistes chaque matin avec vous, Angèle Châtelier. À demain.
À demain et on partira à la rencontre de Céleste, une voix divine, vous verrez.
À demain, Angèle. 8h52, avant de retrouver, bien sûr, Nicolas Canteloup en direct dès lundi. Voici le meilleur de la revue de presse avec Julie.
C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup en best-of. Et tout de suite, on vous retrouve, Mathieu Béliard, pour l'actualité du jour.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est intervenu hier pour rassurer les Français, c'était sa mission. Hier, en direct, on recoute d'ailleurs un extrait de son intervention.
Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'assister à cette conférence pour faire un point sur la situation du virus dans notre pays. Je ne vais pas vous mentir, l'épidémie est à nouveau très active sur notre territoire. La contagion est à la hausse, tous les indicateurs sont dans le rouge. La saturation des hôpitaux menace, les vieux vont mourir, les jeunes se contaminent. Des vieilles dames courbées ont été recrutées, voûtées pour pousser des charrettes remplies de malades. Je reviendrai la semaine prochaine lors d'un nouveau point pour rassurer les Français.
Oh bah non, ça sera peut-être pas la peine. Hein. Merci, non. C'était Olivier Véran.
C'est une vraie révolution dans notre pays, le congé paternité, qui va passer officiellement de 14 à combien ? À 28 jours.
À 28 jours, oui.
Bonjour à tous, c'est Dominique le Romantique. Dites-moi, j'écoute votre radio depuis ce matin, mm-hmm. Sois attentif, effectivement, j'ai reçu cette nouvelle, 28 jours. Les jours de congé en plus, ma question est la suivante, c'est rétroactif ? Non, parce que j'ai fait les comptes avec les enfants que j'ai fait durant ma longue carrière. J'ai droit, d'après mes calculs, à... Attendez, je reprends ma petite feuille. À 7 ans et demi d'indemnité. Comment ça se passe ? Faut remplir un formulaire CERFA ?
Non, monsieur Strauss-Kahn, on ne peut pas récupérer d'anciens jours de congé, voilà.
Ah, c'est dommage.
Ah bah, comme vous dites.
Bon, ceci dit, sans regret, remarquez des congés, je suis en congé déjà depuis 2011.
Bon allez, merci. Merci beaucoup, à bientôt.
Je vous en prie.
Emmanuel Macron a eu des mots forts hein, contre l'islamisme radical. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, nous devons lutter contre l'islamisme. Cela suffit. Nous n'avons que trop tardé. Enfin, quand je dis nous, les gouvernements précédents... n'ont rien fait, vous le savez. Aujourd'hui, je me retrouve à faire tout le boulot. Ça n'est pas acceptable, Madame Julie.
Alors, vous avez dissous le collectif Cheikh Yassine, vous avez fermé pour 6 mois la mosquée de Pantin. Mais de façon plus concrète, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, Monsieur Macron ?
Un numéro vert. Oui, je l'assume, c'est notre réponse à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on fait des numéros verts.
C'est vrai.
C'est notre spécificité française.
Effectivement, le gouvernement a mis
le numéro bio,
un
le numéro vert.
Une cellule d'écoute pour les enseignants, c'est ça ?
Mais oui, mais je sens de la moquerie.
Ouais. Un peu d'ironie.
Mais non, mais écoutez, c'est quelque chose qui fonctionne. Écoutez, on va l'appeler. Plutôt que voilà,
ah, on
l'appeler
appelle le numéro,
vous allez, mais okay. Oui, on va appeler le numéro, vous allez voir, c'est efficace. Vous avez vu déjà la musique, c'est enlevé, ça swing, ça donne envie de témoigner.
Bonjour, vous êtes bien sur le numéro vert du gouvernement dédié aux enseignants qui s'inquiètent de la montée du terrorisme. Si vous avez un souci avec un élève qui porte la barbe à l'âge de 9 ans, tapez 1.
Tapez 1.
Si un de vos élèves veut vous taper parce que vous prétendez que les femmes et les hommes sont égaux, tapez 2. Si un élève veut quitter la cour de récréation pour aller jouer sur un tas de sable en Syrie, tapez 3. Si un terroriste est dans votre classe, tapez dessus. Ne quittez pas, un conseiller de l'éducation nationale va vous répondre.
Je ne sais pas qui a fait les catégories, c'est n'importe quoi. Attendez un instant, Mme J, je tape 4.
Tout le personnel de la direction de l'éducation nationale est actuellement occupé à s'embattre les steaks. Votre délai d'attente est estimé à 30 ans. Et n'oubliez pas, être enseignant, c'est être l'héritier des philosophes des Lumières. Bravo pour cette belle mission et en cas d'incident, comptez sur nous pour envoyer des fleurs défiscalisables à votre famille.
Et puis un petit mot avant de nous quitter de notre ami Jean-Pierre Pernaut qui a annoncé qu'il allait quitter le trésor de TF1.
Eh oui, ma chère Julie, bonjour à tous. À 70 ans, je crois que j'avais le droit à une retraite bien méritée.
Mais oui, vous allez pouvoir enfin vous balader dans les petits villages que vous aimez tant. Hein, dans
petits villages que j'aime tant, mais ça va pas. Non, mais ça, jamais de la vie, ça fait 30 ans. 30 ans, vous m'entendez, que je m'emmerde à parler des villages de Razon-le-Dindon, hein, de Gratouilly sur les Croûtes, des habitants de Bouzillon-la-Crémière, de Tougrasse et de Glavio et de Bourg-les-Rouquines. J'en ai ras le melon. Je veux me barrer à Ibiza ou Las Vegas au choix.
Bon, mais calmez-vous,
Jean-Pierre. Je veux rouler en Maserati orange à Mykonos, plonger dans une piscine de champagne à Barbella. J'en ai plein le derge du rural. Laissez-moi, putain, qui fait ma race. Salut les bouseux.
Nicolas Canteloup, que vous retrouvez bien sûr en direct lundi pour la revue de presse. En attendant, la revue de presse à volonté, bien sûr, sur Europe1.fr. 8h58, bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Sébastien.
Quel est le programme de Culture Média?
Alors, notre info média du jour, c'est la face catchée. Humour, jeu de mots, un tête-à-tête avec des invités sur le site de yahoo.fr. Deuxième numéro avec Patrick Bruel, on en parle avec son présentateur, le batteur Manu Katché. Et le patron de Yahoo France, Alexandre Delperrier. Invité également, celui qui a révélé l'affaire Clearstream au grand public, le journaliste et écrivain Denis Robert. Il lance Blast, un média participatif, une sorte de web télé et aussi site d'information. Ils ont déjà 6 fois l'argent qu'ils souhaitaient récolter. Et puis nous serons avec la comédienne Annie Dupéret pour la nouvelle série de France 2 qui démarre ce soir. Ça s'appelle La Faute à Rousseau. Elle incarne une comédienne sur le retour et une grand-mère un peu punk.
A tout de suite Philippe Vandel pour Culture Média, juste après le journal de 9h de Sophie Echen. Très belle journée à vous tous, 5h du matin demain, Théo Manval pour vous réveiller. Je vous retrouve en direct à partir de 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.